Pour moi, le management, c'est une compétence. Donc, c'est quelque chose qui s'apprend. Pour l'acquérir correctement, il faut essayer, réessayer, réessayer. Quand tu vas aller courir la première fois, ça va être dur. Et puis la deuxième fois, bah, ça va pas être mieux. Et c'est au bout de la quatrième, de la cinquième, de la sixième, de N répétitions que finalement, bah, tu vas intégrer, ça va devenir plus facile. Tu dois toujours te poser la question de est-ce que ce que je fais, c'est bien? Est-ce que je suis dans la bonne orientation? Est-ce que je suis dans la bonne direction? Il y a un moment, faut trancher. Il y a un côté s'interroger, être à l'écoute, regarder les choses de manière avec du recul. Ça, c'est quelque chose qui est une condition absolument nécessaire. Le vrai moteur, c'est de me dire, ça manage tellement mal, ça génère des situations difficiles dans les entreprises, et j'aimerais bien que ça soit juste plus fluide.
Bienvenue sur Serial Entrepreneur. Je suis François Allais, fondateur du podcast, et depuis 2017, je pars à la rencontre d'entrepreneurs remarquables. Chaque entrepreneur possède une histoire unique, a dû prendre des décisions fortes pour réussir et a franchi un cap dans son aventure grâce à des rencontres. Dans ce podcast, j'aime mettre en avant toute la richesse et la diversité de l'entrepreneuriat en France à travers des conversations intimes, authentiques et sans bullshit. Chaque dimanche à 18h, retrouvez un nouvel épisode exclusif. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Yannick Bigot. Alors, c'est lui qui me reçoit et je dis ça à chaque épisode, à chaque fois, c'est l'invité qui me reçoit. Et là, je suis très content d'être reçu par toi, Yannick. Comment tu vas ?
Ça va très bien et toi ?
Super.
Bienvenue dans mon bureau.
Exactement. C'est un lieu qu'on connaît très bien puisqu'on produit ton podcast Le Coup de Bigot. Tu es consultant management depuis plus de 20 ans. Globalement. Tu es le fondateur du coup du podcast Le Coup de Bigot. On aura l'occasion d'en discuter. Moi, mes premières questions, tu sais, elles sont très personnelles pour savoir un peu qu'est-ce qui t'a mené finalement vers l'entrepreneuriat. Et la toute première que je pose sur chacun de mes épisodes, c'est de savoir dans quel environnement est-ce que tu as grandi.
C'est pas très facile d'y répondre parce qu'on sait pas forcément exactement ce que tu veux savoir derrière. Mais en tout cas, ça tire un film que j'aime bien qui est... on croit que le temps, c'est quelque chose de linéaire et en fait, c'est quelque chose de cyclique. Et en fait... Une fois que tu regardes le temps comme ça, tu dis, les gens cherchent toujours à réécrire leur passé pour le rendre cohérent avec leur présent. Donc du coup, on va chercher finalement dans le passé, exactement, on va chercher dans le passé ce qui justifie finalement les clés qui tireraient un fil sur le présent qui est le nôtre aujourd'hui. Et si la question c'est, donc moi j'ai grandi dans un environnement extrêmement bienveillant, parents éducateurs spécialisés, assistantes sociales, donc monde plutôt très social, très humain, très éloigné du monde du business, aucune référence là-dedans, donc des codes tu vois qui étaient très très éloignés de moi, on y reviendra, mais je pense que c'est structurant aussi dans le parcours, donc pas grand chose qui amène vers l'entrepreneuriat. Par contre, j'ai grandi au fin fond de la campagne, mais vraiment au fin fond de la campagne. C'est de manière anecdotique. Alors, je suis plus vieux que toi, mais moi, j'ai grandi dans une petite école de campagne dans laquelle il n'y avait que deux classes. Et en fait, je raconte souvent cette anecdote. Moi, j'étais de corvée de charbon. Le poêle, c'était pas un truc électrique ou un truc au gaz, c'était un truc au charbon. Et donc, du coup, on avait un tour de charbon. Donc, en école maternelle, j'allais chercher le charbon pour le mettre dans le poêle. Et on allait faire se ramollir la pâte à modeler pour pouvoir jouer à côté du poêle au milieu de l'hiver. Donc, c'était quand même un peu... Bon, bref, ça paraît un peu bizarre. On était quand même dans les années, fin des années 70, début des années 80. Ça... Toutes les autres écoles, tu vois, ça ressemblait pas à ça. Mais j'ai vraiment grandi à la campagne avec un côté... Dès 14 ans, je travaillais dans la ferme à côté de chez mes parents, avec toujours l'idée derrière de... Bon, je commence par nettoyer sous les animaux, leur donner à manger, etc. Et puis après, peut-être que je pourrais conduire le tracteur et après, je pourrais peut-être conduire la moissonneuse-batteuse. Tu vois, il y avait un truc... comment est-ce qu'en acceptant certaines tâches qui n'étaient pas forcément très glorifiantes au départ, on arrive à aller vers autre chose et vers un truc plus haut, plus intéressant. Donc ça, probablement, c'était très vite ancré entre mon aventure d'aujourd'hui et mon aventure d'hier, toujours la volonté d'aller un peu plus loin, d'aller chercher un truc plus loin. Et avec toujours des gens qui m'ont porté, c'est-à-dire toujours des gens qui m'ont fait confiance, qui m'ont porté sur... voilà, à chaque fois que j'ai voulu prendre un risque ou une orientation, il n'y a jamais personne qui s'est mis sur mon chemin ou mes parents m'ont jamais dit « Non, ça, c'est peut-être pas une bonne idée. » Ils m'ont toujours poussé.
Ouais, ça c'est super important et précieux. Est-ce que tu te souviens de tes premières passions ?
Moi, j'ai toujours été passionné de politique. C'est un truc qui m'a toujours branché. À la fois la chose publique, comment est-ce que les décisions collectives se prennent ? Comment est-ce que une vie, une cité arrive ? Comment est-ce que les gens arrivent à vivre ensemble ? Tout ça m'a toujours absolument passionné. Ce qui se passe autour me fascinait aussi. Tu vois, le côté, les attributs du pouvoir, tu vois, etc., étaient des choses que je trouvais assez magiques, assez mythiques. Donc, je trouvais ça effectivement assez intéressant. Donc, ça a guidé aussi toute une partie de mon parcours. Hein. Quand j'étais au lycée, je faisais partie des gens qui étaient élus à l'échelle régionale, machin, etc. Donc, ça faisait partie des choses qui m'ont beaucoup poussé jusqu'à l'université, syndicat étudiant, etc. Ça, c'est des choses qui m'ont toujours suivi. J'avais pas de passion pour la philatélie, comme mon père, ou tu vois, de passion pour les BD ou un truc. Moi, c'était la chose publique, la politique et l'action qui m'habitaient jusqu'à la fac.
Ouais, c'est une passion qui s'est arrêtée à la fac, justement.
On pourrait dire ça.
Ok.
Mais pas à l'abri que ça me reprenne, mais...
Il n'est jamais trop tard.
Après, j'ai mis mon énergie dans... Ça m'a beaucoup marqué, et je pense que ça m'a beaucoup décidé dans une partie de mon parcours. Moi, en gros... J'ai fait une fac de sociaux et je me destinais à devenir sociologue, tu vois. C'était le Graal, enseignant en sociologie. Et au bout d'un moment, à la fois la politique et l'université m'ont amené à me dire « Mais en fait, ces gens-là sont en train de parler de choses qu'ils ne connaissent pas. » C'est-à-dire que le monde se passe dans l'entreprise et ailleurs, à l'extérieur. Et tous ces gens-là, en fait, ne connaissent pas ce monde-là. Et je me suis dit à un moment, je ne peux pas décemment faire de la politique sans savoir ce que c'est que vivre le monde de l'entreprise. Donc, j'ai dit, faut que j'aille bosser, faut que j'aille dans le monde de l'entreprise et faut que je fasse mes preuves là pour comprendre quelque chose à ce monde-là. Et j'en suis jamais revenu.
Ouais, pour toi, finalement, c'était une première étape et en fait, t'es resté sur cette étape.
Je ne sais pas ce que sera l'étape d'après. Mais pour le coup, voilà. Non, ça m'a vraiment habité. Effectivement, voilà, et j'y ai trouvé mon compte en réalité.
Donc, t'as fait des études de sociaux.
Oui.
Comment est-ce que t'as vécu tes études, justement?
En fait, moi, jusqu'au bac, j'étais un élève médiocre. Très moyen, quoi. Tu sais, c'est les bulletins qui disent intelligent, mais pas travailleur, donc gâche son talent.
J'ai eu les mêmes.
Voilà. Bon. Tu vois ce que je veux dire. Jusqu'à la fac. Et en fait, moi, j'ai fait 5 ans de lycée. Hein. Donc, tu vois, mes enfants se foutent beaucoup de moi sur le sujet. Donc, je peux difficilement challenger leur bulletin scolaire parce qu'ils disent, rappelle-nous, t'as fait combien d'années de lycée? T'as redoublé toutes les classes ou non? Il y en a que t'as pas fait deux fois. Jusqu'à la fac. Ou à la fac, en fait, très vite, j'étais dans les meilleurs de la promo avec des notes très, très élevées parce que j'avais trouvé le truc qui me passionnait absolument et qui continue à m'habiter aujourd'hui. C'est-à-dire, je dis à tous mes clients et à tous les gens avec lesquels je bosse, les grilles de la sociologie restent des grilles qui me servent au quotidien dans la compréhension des organisations et de comment fonctionne un groupe humain. Donc moi, les études de sociaux, ça a été un truc absolument passionnant, y compris sur des trucs. Moi, j'ai fait le début de mes études à Brest et un de nos terrains d'études, c'était la pêche à pied. De dire, mais pourquoi une partie de la population, tu vois, se met à aller pêcher à pied? Est-ce qu'il y a une culture familiale derrière? Donc, c'était un objet d'étude comme un autre. C'était pas, a priori, très passionnant. Et pourtant, c'était génial, en fait. Ça nous apprenait à aller faire des entretiens, à aller rencontrer des gens, avoir une analyse, consolider les données. Voilà, ça c'était un objet comme un autre d'étude. Mais effectivement, je trouvais ça passionnant. Ça me permettait de comprendre un bout du fonctionnement d'une société et d'un groupe humain. Et une entreprise, c'est rien d'autre qu'un groupe humain. Donc, c'est important de comprendre les clés de comment ça fonctionne.
Ça, on aura évidemment l'occasion d'en discuter dans le podcast. Est-ce que tu te souviens de ton premier job ?
Mon premier contrat, ma mère bossait pour le conseil général puisqu'elle était assistante sociale et on avait la possibilité, ils avaient la possibilité de faire embaucher leurs enfants un mois l'été sur un job d'été. Et une partie des autres enfants, tu vois, ils étaient dans des jobs administratifs assez, tu vois, assez simples, etc. Moi, j'étais dans le restaurant administratif. Donc, tu sais, là où tous les gens de la cité administrative, tu vois, viennent manger le midi. Donc, c'est un restaurant collectif, hein, pour le coup, qui envoie beaucoup de couverts. Et moi, j'étais à la plonge, mais pas à la plonge des assiettes avec une grosse machine. Moi, j'étais à ce qu'on appelle la plonge, la vraie plonge, quoi. C'est moi, on m'emmenait des gamelles brûlantes où des fois je devais rentrer dans des cuisines de collectives, là t'as des énormes marmites qui sont vissées au sol, tu vois, où tu mets les trucs dedans, tu les enlèves après, tu vois, enfin bref, c'est des trucs gigantesques et moi fallait que je rentre dedans pour les nettoyer, tu vois. Donc c'était je crois que c'est mon premier job payé.
Okay.
Et officiellement déclaré. Après, j'ai été beaucoup animateur, tu vois, dans des colonies de vacances, etc. Ça, c'était mes premiers jobs entre guillemets étudiants.
Okay.
C'est ça que tu voulais savoir ?
Exactement. Okay. Si je te dis que ma mère était assistante sociale, tu me crois aussi ou pas ?
Je dis, est-ce que ton père était éducateur spécialisé ou pas ?
Non, malheureusement non. Mais du coup, je connais ce système de un mois.
Ah, voilà.
Moi, je ne l'ai pas fait, mais ma sœur l'a fait.
Et voilà.
Voilà, elle était...
et c'est un peu une loterie quand même, parce que...
Moi, je crois qu'elle devait faire le ménage dans un établissement, tu vois.
Et en vrai, la
diversité de métiers est très, très large.
Très large. Et franchement, d'abord, je suis très reconnaissant de ça, parce qu'en fait, il pourrait fonctionner autrement, et je trouve que c'est vraiment un beau moyen, donc merci pour ça. Et franchement, même dans ces jobs-là, qui étaient des jobs hyper durs, franchement, tu vois, c'est dégueulasse, tu vois, t'es dans des... L'eau est très chaude, il y a de la javel dedans, tu te brûles les doigts tout le temps. C'était pas, les conditions sont pas géniales et j'ai toujours adoré ça. Parce qu'il y avait des gens autour, parce que t'es dans une chaîne, parce que t'es avec les autres et voilà. Le collectif était quelque chose qui était déjà important pour moi.
Et puis la première fois où tu travailles justement, t'as toujours ce côté marquant, tu vois, de dire ok, je travaille et du coup je suis rémunéré pour ça.
Oui.
Ça a toujours un effet particulier quand c'est le début. On va dire. Et après, ça devient une routine, comme beaucoup de choses. Toi, Yannick, t'as travaillé notamment 10 ans chez Deloitte en tant que directeur capital humain, si je ne dis pas de bêtises.
Non.
Tu as également travaillé 7 ans chez Elior en tant que responsable développement RH. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de ces expériences de salariat ?
Moi, chez Elior, j'ai eu plusieurs jobs. J'ai fait un peu de paye, j'ai fait beaucoup de recrutement justement de professionnels dans la cuisine. Elior, c'est un groupe européen de restauration, donc en gros, c'est connu par ces marques de restauration collective, que ce soit dans les hôpitaux, dans les écoles ou dans les entreprises. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que le point commun de tout ça, là, j'ai pas réfléchi à la question, mais c'est la passion de ces gens-là. J'ai toujours trouvé ça assez fou. De rencontrer des gens absolument passionnés. Et ça, c'est la passion et l'énergie que les gens mettent dans le job. Ça, c'est un des trucs qui m'a beaucoup marqué. Et puis le deuxième truc, c'est quand même dans le monde du salariat, et c'est pas pour rien si aujourd'hui je le suis pas, dans des grosses maisons, il y a beaucoup d'énergie qui est perdue dans de la régulation interne, dans des temps qui sont pas des temps très très productifs et très très intéressants. Ça, c'est donc beaucoup de passion des gens, et de l'autre côté beaucoup de ce qu'on appelle de la bureaucratie, quoi, qui en fait freine une partie de l'initiative, et parfois t'as plein de gens qui pédalent dans des directions qui sont différentes et que ça produit pas toujours beaucoup de résultats. Donc voilà, passion des individus, passion individuelle, quoi, de gens vraiment toujours très passionnés, et puis une organisation qui peut être parfois bureaucratique et qui freine une partie de l'initiative, et ça m'a toujours beaucoup gêné.
Donc par la suite, tu continues de suivre cette passion finalement, mais en n'ayant plus les contraintes de cette bureaucratie.
Ah oui, mais avec d'autres risques alors.
Avec d'autres risques, c'est le fait d'entreprendre, puisque du coup tu crées ta société L48 Conseil en janvier 2018.
Oui.
Justement, pourquoi est-ce que tu te lances à ce moment-là dans l'entrepreneuriat, quasi, à dire 17-18 ans après avoir travaillé dans des grandes entreprises ?
Le premier truc, c'est que avant de monter ma structure, moi, chez Deloitte, je bossais beaucoup sur les modes de travail à ce moment-là. J'accompagnais beaucoup de projets de déménagement, etc. Et donc, on a décidé avec Hélène, c'est la mère de mes enfants. Mais comme on n'est pas marié, je ne peux pas dire ma femme. Tu vois. On va dire c'est ma compagne. On a décidé de... On est finistériens tous les deux, hein, du bout du Finistère, et on vivait en région parisienne depuis longtemps, et on a décidé de revenir s'installer à Rennes. Donc ça, déjà, ça a été une première rupture qui est avant que j'équipe Deloitte. Et là, les équipes de Deloitte ont été assez géniales avec moi. Et mes patrons m'ont dit, écoute, tu sais quoi, donc on était bien avant le Covid, hein, quand même, parce qu'on est de 2016, un truc comme ça. Et là, je me souviens de la réponse de Fabien qui me dit, en fait... tu sais quoi, tu travailles d'où tu veux. Nous, on a confiance en toi. On sait que de toute manière, tu fais tes résultats et que c'est le seul truc qui compte. On sait que tu es orienté client et orienté sur tes équipes. On n'a aucun problème. Donc, tu sais quoi, l'endroit où tu vis, ça t'appartient à toi. Nous, on n'a pas à te dire où tu dois habiter. Ah, franchement, j'étais un peu flippé au début. Et en fait, bon, je sais pas pourquoi, parce qu'avec Fabien, de toute manière, il a toujours été très, très en confiance. Mais du coup, quand ton patron te dit ça, en disant... Vas-y, fonce, fais ce que tu veux. Donc ça, c'était super. Et en arrivant à Rennes, je rencontre des gens, forcément à droite ou à gauche, et je me rends compte qu'il y a une espèce d'énergie un peu dingue dans l'entrepreneuriat, et je suis jaloux de ça, en fait. Je vois cette espèce d'énergie folle de gens qui créent un truc, qui prennent un risque, le truc fonctionne, ça marche pas, ils corrigent le tir. Et je me dis, oulala, mais moi, je suis dans une grosse structure. J'avais déjà un peu d'expérience avec des startups, puisqu'on avait, on avait essayé de monter, tu vois, pour les managers, des outils en partenariat avec des startups, puisque un des fonctionnements que moi j'aimais bien, c'était rester en mode très ouvert. C'est-à-dire de dire, c'est pas parce qu'on est une très grosse machine qu'on a une renommée qui est internationale que pour autant on doit savoir tout faire. Donc on était beaucoup avec les gens avec lesquels je bossais, Olivier, Alicia, tout ça. On était très ouvert sur un écosystème autour de nous. Et on avait commencé à bosser avec des startups pour monter des applis à destination des managers, etc. Truc passionnant. Et là, j'avais rencontré des patrons de start-up et en arrivant à Rennes, je recroise des gens et là, je me dis, il y a un truc en fait. Il y a un truc autour de, en dehors des grands groupes, il y a quelque chose d'une énergie qui me fait envie. Ça, c'était le premier élément, entre guillemets, tu vois, un peu égoïste de dire, moi, j'ai envie de cette vibration-là. Et le deuxième truc, c'est que moi, j'ai travaillé pour des grands groupes. Hein. Forcément, quand tu bosses chez Deloitte, les clients qui sont les tiens sont des groupes du CAC 40, sont des très grosses structures. Donc, j'ai travaillé pour des grands groupes. Et une des limites que je commençais à percevoir, c'est en fait, les managers dans les grands groupes sont des gens qui sont très accompagnés. Il y a des services formation, parfois des coachs internes, externes, donc beaucoup de consultants qui gravitent dans ces structures-là. Donc, les managers sont souvent très accompagnés et ils mettent pas toujours en œuvre les choses. Et puis, je me rends compte qu'en fait, le tissu économique est plus large que ça, qu'il y a effectivement tout le tissu des PME qui est gigantesque et que le patron de PME, lui, il n'est pas très accompagné en réalité. Et là, je prends en fait en pleine face que finalement, ceux qui ont le plus besoin d'être aidés en termes de management, c'est les patrons de PME. Et je les admire beaucoup, on y reviendra, parce que eux, pour le coup, tu leur expliques un truc le lundi, le mardi, ils ont commencé à le mettre en place immédiatement. Et il y en a pas un qui est le pied sur la pédale de frein. Ils sont dans cette mise en œuvre immédiate de ce que tu leur apportes. Alors ils le font plus ou moins bien. Ils te rappellent derrière pour te dire tiens, j'ai pas forcément bien réussi mon truc. Donc ça peut être très chronophage, mais ils se mettent en mouvement et ils travaillent. Donc vraiment la création de N48, c'est moi j'ai une envie d'autre chose, d'un mode de fonctionnement différent et d'une forme de vibration, d'une espèce d'énergie. Et ce que je sais faire peut être utile à des gens qui sont peu accompagnés ou en tout cas, il y a un besoin tellement immense qu'il y a de la place. Donc, c'est un peu la conjonction des deux qui, à un moment, je me lance en me disant « Bon, ben, on y va, on verra bien. » Et en fait, en discutant avec les uns ou les autres, j'arrive à la conclusion que même si ça foire, bon, avec le CV qui est le mien, j'aurais pas beaucoup de difficultés à retrouver un job par ailleurs. Et il y a quand même un truc qu'on dit pas beaucoup et qui pourrait changer, donc faut effectivement s'en méfier, c'est que tu as quand même un truc qui s'appelle Pôle emploi en France. Et quand tu lances une activité alors que tu étais salarié, pendant quelques semaines ou quelques mois, ces gens-là sont capables de t'accompagner, y compris financièrement, tu vois, de te sécuriser sur une partie de ta rémunération. Ça ne dure pas des plombes, mais pour le coup, ce truc permet de mettre quand même le pied à l'étrier et c'est quand même très, très sécurisant. Donc, ça, c'est un système que le monde nous envie, qu'il faut protéger et chérir, mais il ne faut pas en abuser, justement. Tu vois, il faut que le truc se mette en mouvement assez vite. Et pour le coup, c'est une sacrée aide à l'entrepreneuriat.
C'est clairement le premier financeur des entrepreneurs en France aujourd'hui.
Ouais.
Je pense que dans tous les entrepreneurs que j'ai dû recevoir dans mon podcast, aujourd'hui, je pense qu'une grande majorité est passée par ce système. Et c'est clair que c'est une aide non négligeable.
Exactement. Et c'est très sécurisant. Et alors après, économiquement, honnêtement, c'est pas forcément très intéressant au sens où ça te paye un salaire, mais pour le coup, tu t'en verses pas. Donc, tu te retrouves avec un niveau d'impôt sur les sociétés qui est très élevé. Donc parfois, mais c'est pas très grave. En tout cas, c'est psychologiquement hyper sécurisant, hyper aidant. Et c'est vraiment un système qu'il faut chérir, quoi. Le monde entier nous envie un truc comme ça. C'est magique.
Ouais, non, c'est clair.
Merci à Pôle emploi, moi je dis.
Petite dédicace.
Ouais,
ceci exactement. N'est pas une collaboration commerciale.
Non.
Comment est-ce que tu accompagnes tes clients aujourd'hui ?
Mes clients, c'est des patrons de PME. Ça va de boîtes qui ont 7-8 collaborateurs jusqu'à des entreprises qui ont plusieurs milliers de collaborateurs. On va dire qu'il y a trois. Donc moi, je ne les accompagne que sur du management. Comment est-ce que je fais mieux bosser mes équipes ensemble et comment est-ce que moi j'accompagne mieux mes équipes. Et j'ai trois modalités d'intervention. Il y a du conseil. Parfois, je pense à un client qui me dit on est en train d'installer une ligne managériale intermédiaire, on a besoin d'avoir un référentiel managérial, on a besoin que tu nous aides à structurer un référentiel managérial. Donc là, tu vas faire du consulting avec eux. Je fais beaucoup de formation. Clairement, Allez, on va dire 60% de mon chiffre d'affaires. Tu vois, c'est très important, la partie formation. Et il y a une partie de coaching individuel de dirigeants que je reçois ici. On réfléchit sur leurs problématiques, les difficultés qui sont les leurs et comment est-ce que j'essaie à se poser des bonnes questions et pas à trouver les réponses. Tu vois, mon job, c'est pas d'apporter des réponses.
Ouais, bien sûr. Et comment t'as vu cette évolution entre le lancement de ton activité et aujourd'hui ?
Il y a deux temps. Le premier temps, quand j'ai lancé mon activité, clairement, mon carnet d'adresses parisien était quand même très fort. Donc, je vivais à Rennes, mais j'avais quand même beaucoup de missions qui étaient à Paris en collaboration avec d'autres cabinets où on travaillait toujours sur des groupes un peu CAC 40, etc. Et puis, il y a deux ans maintenant, pour diverses raisons, on y reviendra si tu veux, un retournement de situation où effectivement, c'est les missions très rennaises, donc beaucoup plus petites, mais beaucoup plus nombreuses qui se sont développées.
Est-ce que tu as vu une évolution du management en France durant toute ta carrière ? Est-ce que tu as vu des choses, des tendances sur les dernières années ?
Il y a deux trucs. Un entre quand moi j'ai commencé à travailler et quand j'ai commencé à faire du conseil, on va dire au bout de 7-8 ans, tu vois, quand j'ai commencé à faire du conseil. Et aujourd'hui, le monde managérial a radicalement changé. En tout cas, le rapport au travail, et pas seulement des nouvelles générations, mais le rapport au travail globalement a beaucoup évolué et les marqueurs ont quand même beaucoup changé. Je racontais ça déjà à mes clients il y a 15 ans en disant attention, ça va bouger, les références ne vont pas être exactement les mêmes. Il y a des référents sociaux, tu vois, qui sont en train de changer. Ça s'est clairement mis en œuvre et on y est complètement aujourd'hui. C'est-à-dire le rapport à l'autorité qui a évolué d'un monde très patriarcal, très autorité descendante à quelque chose qui est très horizontal. Pour le coup, le vieux management, et c'est marrant parce que moi j'ai des enfants qui commencent à travailler maintenant puisqu'ils sont grands. Et effectivement, on a ces discussions-là où ils me disent mais en fait. Ils managent pas en fait, ils nous managent pas les gens qui sont managers en fait, ils nous donnent des ordres parfois, mais ils nous managent pas vraiment en fait. Donc ça m'interroge toujours. Je me dis que j'ai toujours du volant de business. Donc clairement, les évolutions sociologiques du rapport au travail ont vraiment impacté le monde de l'entreprise et le Covid a joué comme un accélérateur de ça. Donc évolution du rapport à l'autorité, évolution du rapport à l'engagement. C'est-à-dire, faut quand même se souvenir que une partie des gens qui sont aux commandes des entreprises aujourd'hui, qui sont des gens qui ont mon âge, ont vécu un monde dans lequel tu changeais pas de banquier, tu changeais pas d'opérateur téléphonique, mais il y en avait qu'un, tu divorçais pas ou peu, en tout cas c'était marginal. Donc la logique d'engagement était une logique d'engagement long terme. Donc le CDI était exactement, tu vois, la concrétisation de ça. Là où aujourd'hui, tu changes d'opérateur téléphonique du jour au lendemain, tu changes de banquier dès que tu as un nouveau projet immobilier parce que tu fais jouer la concurrence, et il y a un couple sur deux qui divorce. Donc forcément, les gens qui sont construits avec ce monde-là dans leur rapport, tu vois, au monde, qui enfin voient ce monde-là qui se construit, et tu viens leur expliquer qu'en fait, ils vont avoir un CDI, qu'on va essayer de faire de la rétention sur le long terme, qu'ils ne reporteront qu'à une seule personne unique et qu'ils verront une fois dans l'année pour un entretien annuel, ça ne peut pas marcher en fait. Il y a une espèce de décalage. Et ça, bah, les sociologues ont bien vu le truc venir parce qu'ils ont étudié effectivement ces changements sociétaux et pour le coup, le monde de l'entreprise n'a pas complètement évolué. Bon, il y a des gens qui continuent à parler de « on va faire de la rétention ». Ben, bon courage.
Bon courage.
Ouais. Donc là, il y a un vrai truc effectivement qui a bougé. Et avec des managers, la caractéristique, c'est que les managers français, moi j'ai une référence qui est vraiment François Dupuis que j'aime beaucoup, qui explique à quel point les managers sont en difficulté parce qu'ils ne sont pas forcément formés à comprendre l'organisation qui est la leur autour d'eux et que parfois ils sont très démunis. Et en réalité, la plupart des managers français sont des gens qui ne sont pas formés à manager. Moi, c'était émouvant. Il y a quelque temps, j'avais un expert comptable en formation qui allait raccrocher. Il avait 61 ans, un truc comme ça. Donc voilà, il me dit, je viens quand même en formation parce que ça m'intéresse. Et il était ému à la première session. On était sur il y avait trois sessions de formation. Et puis à la fin de la première, il dit, Yannick, c'est super, c'est vachement intéressant tout ce que tu me racontes parce que c'est des trucs qu'on m'a jamais expliqué en fait. Donc il me dit, rétrospectivement, je me rends compte de tout ce que j'ai mal fait, quoi. Et il était, tu vois, ému de ça parce que. Moi, je connais pas un manager qui soit content de mal manager, quoi. Ils se rendent pas forcément compte, mais quand ils se rendent compte qu'ils font un truc pas bien, ils ont vraiment envie de changer. Et puis, il a corrigé des trucs, il a essayé des nouveaux trucs, il a 61 balais, il aurait pu se dire, écoute, tu vois, Non, il essaye des trucs avec un collaborateur, donc on prépare en réunion avec lui de dire, ok, c'est quoi le problème avec ton collaborateur, à ton avis, pourquoi est-ce qu'il fait ça, etc. On commence à savoir comment est-ce qu'il va le questionner, comment est-ce qu'il échange. Il revient à la deuxième session, il me dit, tu peux pas savoir, ça a changé la vie. Parce qu'en fait, il a confronté le collaborateur sur un problème, alors qu'il avait, il le disait, en fait, j'ai la trouille d'aller voir ce collaborateur, je ne sais pas par quel bout je vais le prendre. On a, avec l'ensemble du groupe de formation, on a essayé de lui faire un peu sa feuille de route, machin, il y est allé, il s'est mis en déséquilibre, et il a recadré le collaborateur en disant, ben voilà, il y a ça que tu fais super bien, mais il y a ça, c'est pas possible, machin, faut corriger le tir, etc. Il a eu un vrai échange avec le collaborateur qui a dit, ah, ok, je ne m'étais pas rendu compte, ok, le collaborateur a changé. Et le manager a été ravi, tu vois. Et il revient en formation, 61 balais, et il dit, ben, j'ai changé un truc, et ça a marché tout de suite.
Ouais.
Donc, une constante, c'est ils sont mal formés, les managers en France. Ils ne se renseignent pas beaucoup sur le sujet, parce qu'il y a des podcasts, il y a des bouquins, etc. Donc, il y a plein de choses sur lesquelles ils pourraient effectivement se former, mais ils ne le font pas forcément. Mais quand ils s'y mettent, ben, ça change la donne tout de suite, quoi.
Alors du coup, c'est parfait pour rebondir sur ce que j'ai envie de rebondir, c'est-à-dire moi dans le podcast depuis 2017, j'ai reçu plus d'une centaine d'entrepreneurs dans le podcast et parfois on va parler de management sur deux ou trois questions et très souvent la réponse que j'ai c'est mais moi le management c'est pas fait pour moi, donc j'ai enlever cette partie-là de mon champ d'action.
Okay.
Et du coup, ce qui est intéressant avec ce que tu as dit, c'est que pourquoi justement les managers ne sont pas formés, enfin les managers français ne sont pas suffisamment formés ou ne se rendent pas compte de la quantité d'informations qu'il y a sur Internet ou sur les réseaux vis-à-vis du management, c'est peut-être parce qu'ils pensent que le fait de manager, c'est une compétence qui est innée. Et du coup, ma question, c'est est-ce que manager, c'est inné, tu vois?
Inné ou acquis? Pour moi, le management, c'est une compétence. Donc, c'est quelque chose qui s'apprend. Après, on est plus ou moins à l'aise avec certaines de ses composantes. Tu as des gens qui sont très à l'aise dans la communication interpersonnelle, des gens qui sont très empathiques, des gens qui sont très assertifs, pour lesquels c'est très facile de dire un truc qui ne va pas, etc. On n'est pas tous équipés pareil. Mais c'est d'abord et avant tout une compétence. Et une compétence, moi, l'exemple que je prends toujours quand je débute mes formations, c'est de dire, à la fin de ma formation, vous ne serez pas différent. Parce que, en réalité, dans la formation, tu vas acquérir la théorie, entre guillemets, et dans les concepts pédagogiques, on dit, c'est 10% par de la théorie, 20% par du feedback, 70% par de l'expérimentation sur une compétence non comportementale. Après, on peut discuter les chiffres, mais en tout cas, ce qui est clé, c'est que c'est une compétence comportementale. Donc, pour l'acquérir correctement, il faut essayer, réessayer, réessayer. Et je fais souvent l'analogie avec la pratique d'un instrument ou avec la pratique sportive. Bah, en gros, quand tu vas aller courir la première fois, ça va être dur. Et puis la deuxième fois, bah, ça va pas être mieux. Et puis la troisième fois, bah, ça va toujours être difficile. Et c'est au bout de la quatrième, de la cinquième, de la sixième, de N répétitions que finalement, bah, tu vas intégrer, ça va devenir plus facile. Bah, le management, c'est exactement pareil. Recadrer un collaborateur la première fois, mécaniquement, de suivre des étapes bien particulières, d'être hyper vigilant à sa réaction. Est-ce que je suis bien focalisé sur les faits et pas sur la personne? Tu vois, tout ça, c'est des trucs, ça se travaille. Si on te dit pas, par exemple, que t'as intérêt pour te sécuriser quand tu fais un feedback négatif, notamment un collaborateur, de ne jamais utiliser le verbe être, parce que avec le verbe être, tu es pas fiable, par exemple, bah, ça dit à l'autre que lui, en tant que personne, n'est pas fiable. Mais on n'en sait rien, en fait. Il est peut-être fiable à l'extérieur. On ne sait pas. Par contre, de bien viser sur les faits. Et du coup, tu vois, j'ai tendance à dire souvent, il faut que vous distinguiez l'individu et le comportement. Personne n'est complètement bon, personne n'est complètement mauvais. Il y a une logique de comment est-ce que je corrige le comportement d'une personne dans une organisation particulière. Donc, c'est très compliqué à comprendre. Il y a qu'est-ce que l'organisation fait pour que la personne ait le comportement qu'elle a? Qu'est-ce que moi je fais pour que la personne ait le comportement qu'elle a? Qu'est-ce qui relève d'elle? Tu vois, et tout ça, il y a de la sociologie, il y a de la personnalité, tout ça se mélange pour tenir une situation qui est parfois explosive, et le manager il dit « Ah non, moi je me vois pas de traiter ce truc-là ». Bah oui, mais si personne lui a expliqué comment est-ce qu'on comprend pourquoi une personne fait ce qu'elle fait, que t'as pas creusé les outils avec elle, elle peut pas savoir. Ce qui serait inné, c'est d'être à l'aise dans la communication interpersonnelle. Et encore, même ça se travaille. Mais les clés pour comprendre les profils de personnalité, comprendre le rôle du manager entre sa position d'expert et sa position, tu vois, de manager ou de coach, de comprendre les leviers de motivation de quelqu'un, de savoir comment est-ce qu'il faut recadrer en ayant tu vois, les concepts fondamentaux de ce que serait la communication non violente, par exemple, de savoir ce que c'est que déléguer et d'avoir une idée de maturité professionnelle. Tout ça, si t'as pas expliqué ça à quelqu'un, comment il fait il a pas les outils, en fait. C'est comme me disait, tiens, je vais te donner une bagnole et puis je t'explique pas comment on la conduit. Ben, bon courage. C'est exactement ça qui se passe avec la plupart des managers. Et là où souvent la formation se trompe et où c'est, moi j'ai vraiment pris un parti différent, c'est que souvent la formation c'est je te fais jour 1, jour 2, jour 3 et rentre chez toi. Et moi je fais jour 1, on se reparle pour vérifier ce que tu as mis en place. Jour 2, un mois après, on se reparle, on débrief, on apprend des nouveaux trucs. Re-rendez-vous téléphone. Enfin, j'étale le truc dans le temps. Je sais qu'il faut du temps pour acquérir ces compétences-là et que ça vient pas comme ça.
Comme chaque compétence qui s'apprend. Voilà, il faut du temps, il faut de la pratique, il faut de l'expérience.
Sauf que là, le terrain qui est en face de toi, ben, c'est des gens.
Exactement.
Des gens avec leur émotivité. Et du coup, ben, un jour, Martine, elle peut réagir positivement à ce que tu lui dis. Et puis le lendemain, ben, elle ne va pas bien réagir parce qu'il s'est passé autre chose. Donc, le terrain est un terrain qui est extrêmement glissant. Donc, il faut être assez solide sur ses bases, pour le coup.
Ouais. Donc cette phrase, c'est pas fait pour moi.
T'as des gens qui peuvent dire, je suis plus à l'aise dans une fonction qui est une fonction très stratégique de direction et j'ai pas forcément envie d'être dans un, je veux être sur un temps long et pas sur un temps court. Je veux être plutôt sur une posture visionnaire plutôt qu'une posture opérationnelle. On dit parfois que dans une boîte, il y a le visionnaire et celui qui gère l'opérationnel. T'as des dirigeants qui peuvent dire ça, mais tu vois, faut découper le truc, faut se dire, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi est-ce que t'as pas envie? J'ai des gens qui viennent me voir et qui disent, effectivement, je suis pas à l'aise avec ça. Et avec certains, on travaille et on arrive au résultat où ils disent, bah, en fait, maintenant que j'ai les outils, en fait, ça me va. Et d'autres qui disent, même avec les outils, c'est pas mon moteur. Et moi, je suis plus à l'aise à discuter avec des investisseurs ou à être devant mes lignes de code et ça m'intéresse pas.
Ouais, mais c'est clair qu'il faut s'y intéresser avant de prendre telle ou telle décision. Il faut comprendre justement ce processus.
C'est comme les enfants. Tu goûtes d'abord et après, tu pourras dire que t'es.
Exactement.
Bon, ben voilà. Non, mais à minima, faut donner les clés aux gens, leur donner la possibilité de, tu vois, de progresser et de gérer les choses différemment.
Ouais. Je suis très aligné avec tout ça. J'ai évidemment quelques petites questions sur le management, puisque c'est la thématique principale de notre épisode. La première, c'est qu'est-ce qui différencie un bon manager d'un mauvais, selon toi?
Non, parce que je ne sais pas s'il y a des bons managers et s'il y a des mauvais managers.
Sans doute que oui.
Je ne sais pas. C'est quoi un mauvais manager? C'est quelqu'un qui n'applique pas correctement les outils qu'on lui a donnés? C'est quelqu'un qui, justement, ne s'est pas formé? C'est quoi un mauvais manager, en vrai?
Je pense que c'est quelqu'un qui a un impact négatif sur son équipe.
Ok. Ah, ok. Alors, tu vois. Il y en a.
Et dans l'impact négatif, ça peut être démission... burn-out,
donc c'est quelqu'un...
baisse de productivité.
Tu vois, donc ce que tu appelles un mauvais manager, c'est quelqu'un qui aurait un impact factuellement, parce qu'il peut avoir un impact négatif sans être mauvais. D'abord, moi, je distingue la personne du comportement. Donc, de dire, je ne crois pas que quelqu'un soit complètement mauvais.
Attention, il est mauvais dans son management, mais il n'est pas mauvais en tant que personne.
Ça ne fait pas de lui une mauvaise personne. Et probablement qu'il ne fait pas tout mal en termes de management. C'est rare qu'il y ait quelqu'un qui fasse vraiment tout mal. Recadrer, il sait pas faire. Fixer l'objectif, il sait pas faire. Être à l'écoute, il sait pas faire. Là, ça commence à faire beaucoup quand même. Mais il y a un défaut de maîtrise d'un certain nombre de sous-compétences dans le management. En tout cas, ce que tu décris, quelqu'un où il y aurait beaucoup de, enfin où il y aurait des burn-out, de la démission, etc. C'est d'abord quelqu'un qui est pas à l'écoute. Tu vois, qui regarde pas, qui ne doute pas. J'avais un patron qui disait. Douter toujours, hésiter jamais. Il y a un truc autour de, tu dois toujours te poser la question de, est-ce que ce que je fais, c'est bien? Est-ce que je suis dans la bonne orientation? Est-ce que je suis dans la bonne direction? Une fois que t'es prêt à trancher, voilà, il y a un moment, faut trancher. Mais tu dois te poser la question de, est-ce que j'ai vraiment tout fait pour que ça réussisse? Voilà, de t'interroger. Donc, il y a un côté, s'interroger, être à l'écoute, regarder les choses de manière avec du recul. Ça, c'est quelque chose qui est une condition absolument nécessaire. Et qui pourrait faire la différence. Quelqu'un qui vraiment ne regarderait pas et s'en ficherait complètement et de dire je déroule mon truc, serait pas à l'écoute de regarder comment ça se passe, qu'est-ce que ça génère, etc. Ça, c'est vraiment un problème. Mais là, c'est pas tant bon ou mauvais. C'est-à-dire là, il y a vraiment un sujet et pour le coup, là, c'est dangereux. Là.
C'est quoi ton meilleur conseil au management? Et est-ce que ce conseil s'applique à tous les contextes? Ou est-ce qu'un super conseil de management, ça dépend à chaque fois du contexte?
Non, j'en ai un.
Dis-moi.
J'en ai un, ça tient en un seul mot, que je sors tout le temps. Pourquoi ?
c'est très relié à l'entrepreneuriat, en fait, hein, le start with why.
Alors, il y a le why. Je vois à quoi tu fais référence. Il y a surtout le pourquoi quelqu'un fait ce qu'il fait. Et tu vois, il y a un vrai sujet autour de... quand tu remontes avec la règle des 5 pourquoi, tu vois, comment est-ce que je distingue... C'est un des trucs qu'on fait beaucoup en formation, de dire, quand quelqu'un formule une demande d'augmentation, une demande d'aménagement d'horaire, etc., je leur dis, tu dois ni dire oui, ni dire non. Tu dois poser la question de pourquoi, parce que tu as toutes les chances que derrière, il y a un besoin derrière la demande, voire il y a un enjeu très fort que tu ne vois pas et qu'en fait, il faut aller creuser sur qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière pour répondre correctement à la question. Parfois, derrière une demande d'augmentation, c'est pas une vraie demande d'augmentation, c'est une demande de valorisation personnelle, de sentiment de pas être suffisamment reconnu. Tu peux lui donner une augmente. C'est pas forcément un problème. Pourquoi pas, tant mieux. Mais probablement que tu vas pas répondre au vrai enjeu de valorisation personnelle qui est le sien. Et du coup, c'est un peu la solution de facilité ou de simplicité. Donc, c'est toujours pourquoi. Et j'explique toujours au manager de dire, pars du principe que la personne qui est en face de toi est une personne intelligente qui a un comportement rationnel. Et je complète souvent en disant, je crois que personne n'aime mal faire son travail. Personne. Je dis toujours en formation et je cite toujours la même phrase, j'en ai connu un. Je vois bien qui c'est. Il était content de voilà. Il se reconnaît.
On en connaît tous un, je pense.
Voilà, c'est ça. Mais c'est exceptionnel. La plupart du temps, les gens sont contents de faire correctement leur job. Mais l'organisation, parfois, les amène à mal le faire. Et ce qui est important, c'est que le manager se pose la question de « J'ai un collaborateur qui ne va pas dans la bonne direction. Pourquoi il ne va pas dans cette direction-là » Un, est-ce qu'il le sait? Et souvent, il y a un premier truc. Hein. La deuxième question derrière, c'est de dire « Mais est-ce que tu lui as dit ?» Et la plupart des managers te disent « Non. » Et donc, tu penses qu'il va se rendre compte tout seul qu'il ne va pas dans la bonne direction. Bah, maintenant que tu le dis, peut-être faut faire autrement. Bon, bah, ok, alors, là, on avance. Donc, pourquoi ? Chercher à comprendre pourquoi la personne qui est en face de toi a le comportement qu'elle a. S'il y a un truc à retenir, c'est ça. Pourquoi ?
C'est quoi le cas de management que tu as le plus vu ces dernières années ? Qui revient le plus fréquemment ? C'est quoi la problématique de management qui revient le plus ?
Il y a quelque chose autour de l'incompréhension dans le comportement de l'autre. C'est de plus en plus vrai parce qu'on le met beaucoup sous l'angle de « mais je ne comprends pas cette nouvelle génération ». Et ça fait souvent référence à le fait de respecter des horaires stricto sensu. Et de dire « mais tu te rends compte
Il est 6h45.
Il s'en va à 17h. Je dis oui, et il est payé jusqu'à quelle heure ? Ben à 17h. Et donc, il ne s'en va à 17h. Ben oui, mais nous, c'était pas comme ça. Ben, oui, mais moi, j'ai un fils qui travaille dans la restauration maintenant et qui, un jour, me dit, bon, moi, c'est simple. Hein, si je fais 36 heures, il me paye une heure sup. Je dis, mais tu sais, tu vas bosser dans le monde de la cuisine, tout ça. Il y a une logique de j'apprends, les gens te donnent du temps, machin, etc. Non, mais c'est pas une question de culture, papa. Je suis désolé, c'est une question de loi. C'est-à-dire, je suis payé 35 heures, on doit payer 35 heures, c'est comme ça. Écoute, va. On verra bien comment ça va se passer. Il a mis de l'eau dans son vin. Mais et effectivement, c'est rigolo parce qu'à chaque fois qu'il me racontait une partie de ses expériences, je voyais l'absence totale de management. Typiquement, une de ses managers, et c'est un cas que je vois aussi chez une partie de mes clients, hein, qui lui dit il bossait dans une chaîne de supermarché pour un drive. Donc, il passe la journée, tu vois, à faire des caddies de commandes. Puis un jour, sa manager vient le voir et lui dit « Faut que t'ailles plus vite. » Qui rentre le soir à la maison, il a un père conseil en management, donc il dit « Elle m'a dit, faut que j'aille plus vite. » Je dis « Mais elle t'a dit ce que ça voulait dire, aller plus vite ?»« Non. » « Et t'as une idée de comment corriger ce truc-là »« Non. » Bon, du coup, le lendemain, il va la voir et il dit « Mais je comprends pas, quand tu me dis faut aller plus vite, donne-moi un indicateur. » Je pense que c'est la première fois qu'on lui pose la question. Et donc, elle lui dit, genre, nombre de commandes, quoi. Quelqu'un qui, voilà, c'est quoi la vitesse normale et moi, c'est quoi ? Ben, les autres, ils font 120 commandes et toi, t'en fais 80. Ah ouais, ça fait un sacré écart. Et donc, du coup, il commence à processer le truc. Il dit, moi, j'ai déjà l'impression de ne pas me traîner. Donc, il ne faut pas juste aller plus vite, c'est pas juste accélérer mes pas, en fait. Il y a quelque chose dans ma méthode de travail qui ne va pas. Ok, et donc il dit dis-moi qui il faut que j'aille voir pour comprendre sa méthode de travail et que je puisse la dupliquer parce qu'il y a forcément quelque chose dans mon organisation qui marche pas. Mais ça, en fait, c'était pas son job à lui. C'était le job de son manager d'analyser de pourquoi est-ce qu'il a une performance inférieure aux autres, comment est-ce que je vais lui dire ça, comment est-ce que je vais analyser pourquoi, lui l'emmener vers X ou Y et construire le plan d'action avec lui pour le développer. Ça, c'est le job d'un manager pour le coup. Ben, ça n'a même pas effrisé sa patronne de l'époque.
Ok. Hyper, hyper intéressant. C'est quoi l'impact justement d'un, pour revenir sur le bon ou mauvais manager, même si tu as répondu, c'est quoi l'impact justement d'un bon management sur une société?
Je pense que ça change tout. Je pense qu'on parle beaucoup de gens qui ont besoin d'avoir du sens. Y a des managers qui sont capables de communiquer à longueur de journée. Moi, j'en ai vu hein, une partie de dirigeants qui, la moitié de leur temps, ils répètent la même chose tout le temps. Ils vont voir une équipe, ils expliquent ouais, la vision, le machin, ils font le lien. Donc, je pense que et le lendemain, ils vont dans une autre équipe et le surlendemain, ils n'expliquent que tout le temps la même chose. Ils déconnent, c'est quoi la vision, c'est quoi la stratégie, à quoi vous servez, pourquoi est-ce que vous, dans la chaîne, vous êtes là. Si vous n'y arrivez pas, qu'est-ce que ça va générer, c'est quoi les problèmes que vous avez, comment est-ce qu'on peut lever les freins, etc. Je pense honnêtement qu'un bon management versus un mauvais management, ça change tout.
C'est un des facteurs clés de la réussite d'une boîte.
Pour moi, sinon je ferais pas ce métier. Mais pour moi, effectivement, c'est absolument décisif. Et beaucoup de gens croient effectivement, c'est là où c'est un cercle vicieux. C'est il y a beaucoup de gens qui se disent ah ben non, c'est pas fait pour moi parce que j'aime pas ça. Du coup, bah forcément, ils ont un management qui est un peu pourri et ça alimente entre guillemets cette espèce de cercle vicieux. Alors que quand les gens se remettent en question, commencent à se dire ok, on va apprendre les fondamentaux, on va être capable de mieux recadrer des gens, on va poser les bons sujets, tu vois. Il y a quelques temps, je croise une chef d'équipe dans une formation qui dit j'ai ma Martine. Alors moi j'ai Martine et Jean-Jacques, c'est mes personnages clés. J'ai ma Martine qui veut faire plus de télétravail et je suis pas d'accord. Ah bon? Pourquoi? Donc elle s'apprêtait, si on n'avait pas discuté, elle allait dire non à Martine pour plus de télétravail, sans plus d'explications. Et elle finit par tirer une file, au fur et à mesure des discussions, et elle finit par se rendre compte que, parce que Martine, déjà quand elle est au bureau, elle va pas très vite, mais alors si en plus elle se retrouve chez elle, je te dis pas l'impact, là le niveau de productivité sera zéro. Ah, mais est-ce que tu lui as dit? Non. Confiance, pilotage de la performance, responsabilisation, rien en fait. On traite aucun des sujets. Et en réalité, donc, tu creuses encore un peu et tu dis, mais comment ça se fait que t'as pas vraiment confiance en elle et comment est-ce que t'objectives l'absence de performance qui est la sienne? Et donc, elle dit, je sais pas. Bon, ok. Donc, la semaine suivante, on se revoit et elle creuse et en fait, elle dit, j'ai compris. En fait, elle continue à faire à la main un truc que j'ai demandé à tout le monde de faire au travers d'un outil Excel. Elle refuse de l'utiliser, donc du coup, elle met 8 heures à faire un truc que les autres font en 2 heures. Ah, tu lui as dit? T'as analysé le truc avec elle? Non. Bon. Là, tout ce chemin-là, tu vois qu'on part d'une demande de télétravail qui est complètement anodine, où la manager va dire non, va se rendre compte que la collaboratrice ne travaille pas suffisamment vite et va la mettre finalement un peu sous pression, sous tension. Il y aura une espèce de malaise entre elles qui va s'installer. Alors qu'en fait, le vrai truc, c'est de dire à Martine, en fait, on a un problème. Le problème, c'est que tu mets 8 heures à faire un truc que les autres mettent 2 heures à faire. Donc, à un moment, c'est plus rentable pour l'entreprise. Tu vois, on peut pas continuer à fonctionner comme ça. Et après, on peut comprendre pourquoi est-ce qu'elle n'utilise pas Excel. Elle a peut-être pas confiance en elle. Elle est pas à l'aise avec l'outil. Ça lui a pas été suffisamment expliqué. Il faut peut-être lui laisser du temps, avoir une trajectoire. Mais en tout cas, on peut pas juste lui dire, non, tu feras pas de télétravail. Presque en mode punition parce que t'es pas assez performante. Mais avec aucune mauvaise intention de la part du manager. C'est juste que le manager n'a pas creusé. Là, ça change tout. Et derrière, une fois qu'on a posé le truc, effectivement, Martine, elle entend que son comportement n'est pas acceptable et qu'elle ne se sent pas complètement. Donc, elles construisent un plan d'action ensemble et le truc se résout. Et c'est juste... certains diraient c'est juste du bon sens. Faut juste avoir les bonnes questions à se poser et les bons outils.
Ouais, non, c'est un bon exemple pour illustrer tout ça. J'ai une dernière question pour cette partie. C'est de savoir un peu c'est quoi tes objectifs futurs pour les prochains mois et les prochaines années. Puis ensuite, on parlera de ton podcast, évidemment.
Moi, mon truc, c'est... Moi, je veux construire l'école du management. Alors, c'est rigolo parce que le truc, c'est vraiment fait à l'envers. Parce qu'au début, quand j'ai commencé à penser à l'école du management, je me suis dit, je pense à un lieu. Un lieu où les gens se retrouvent, où les gens viennent apprendre, où les gens, tu vois, se confrontent, où t'as une espèce de salle des profs. Tu vois, je visualisais une école physique. Et puis je me disais, avec le temps, ça deviendra digital. Et en fait, les choses se sont faites un peu à l'envers, parce que ça commence finalement par du podcast, en fait. Certes, il y a des formations managériales qui existent déjà, mais en fait, du podcast. Donc je pense qu'à la fin, l'histoire va se faire dans l'autre sens, et ça finira peut-être par un lieu physique, et peut-être pas. Mais je pense que ça tourne dans le sens inverse. Donc moi, mon objectif, c'est des lieux dans lesquels effectivement on apprend à manager, où ça devient naturel de pousser la porte en se disant attends, en fait je pense que je manage pas tout à fait correctement, où il y a deux trois situations qui me donnent comme indicateur que ça va pas, je vais aller tu vois à l'école du management ou un truc comme ça, je vais aller apprendre deux trois trucs histoire que ce soit plus facile, parce que mon vrai moteur, c'est de me dire ça manage tellement mal que ça génère des situations qui sont des situations difficiles dans les entreprises, et qu'en fait, moi, j'adorerais que... Parce qu'il y a des situations de conflit, et forcément, il y a des endroits où on ne va pas tout régler, mais j'aimerais bien que ça soit juste plus fluide, qu'on arrive à se dire effectivement les choses, parce qu'il n'y a rien de dramatique dans le fait de recadrer quelqu'un et lui dire le comportement qu'elle tient, ce n'est pas celui qu'on attend, ou la méthode que tu utilises, ce n'est pas celle-là, comment est-ce qu'on en discute, comment est-ce qu'on s'aligne, etc. Voilà, ça, j'aimerais bien que ça marche mieux. Donc, objectif intermédiaire, une école du management, et master objectif, c'est de faire évoluer le management globalement en France.
Donc l'une de ces premières briques finalement de cette école, c'est le podcast que tu as lancé il y a quelques semaines, en septembre dernier, septembre 2023, qui s'appelle Le Coup de Bigot. La mission du podcast, c'est de réconcilier les managers avec le management.
Excellent.
Je sais très bien la baseline puisqu'on produit le podcast. Est-ce que tu peux me parler un peu de cette aventure qui a démarré il y a quelques semaines?
En fait, d'abord, le nom n'est pas de moi. Hein,
Rendons à César.
Ouais, rendons à Simon Lagadec, et à Justin Lagadec, ce qui est à eux. C'est eux qui ont inventé le nom. Moi, j'aurais jamais osé. Et en fait, on a pas mal discuté avec beaucoup d'entrepreneurs sur le bassin rennais. Moi, j'anime des formations dans lesquelles il y a jour 1, jour 2, jour 3 qui sont scindés, et puis avec un rendez-vous téléphonique entre chaque session pour vérifier qu'est-ce que tu as réussi à mettre en place, sur quoi tu as eu des difficultés, c'est quoi les cas que tu as rencontrés, etc., en fonction des fondamentaux qu'on a traités. Quoi. Alors, est-ce que tu as réussi à analyser les leviers de motivation de Martine? Est-ce que tu as réussi à comprendre son profil de personnalité? Enfin bref, sur chaque sujet. Donc ça se passe au téléphone. Et régulièrement, il y a des dirigeants qui, en dehors de ce créneau-là, pouvaient m'appeler, tu vois, en fin de journée ou un samedi matin ou un truc, en me disant « Bon, je te passe un coup de fil parce que j'arrive pas à résoudre telle situation. » Donc, tu vois, on analysait le truc, etc. Et en fait, il y a une expression en France qui dit « Je te passe un coup de bigot, un coup de téléphone. » Donc, du coup, voilà, c'est un peu né de ce truc-là, de dire « En fait, il y a un besoin qui est de pouvoir s'adresser au plus grand nombre dans un format qui soit un format relativement court pour que chacun retrouve une situation managériale qu'il peut rencontrer dans son quotidien et qu'il ait un brin de méthode et d'outils pour pouvoir le résoudre. En se disant, en gros, il y a une partie des managers qui n'iront jamais suivre une formation de management, notamment dans le tissu des PME, etc. Pour autant, ils ont des situations managériales au quotidien. S'ils se reconnaissent dans une situation et qui trouve des clés pour la résoudre, c'est banco.
Ouais, et c'est un podcast du coup qui est disponible en vidéo sur YouTube et Spotify, et en audio sur toutes les plateformes de podcast. On mettra le lien en description.
Génial.
Il y a déjà 8 épisodes qui sont disponibles, et il y en a une douzaine qui arrivent sur les prochaines semaines.
Carrément.
Donc on invite les gens à aller qui sont intéressés par le management, qui veulent progresser aussi en management, à écouter ou à regarder ce podcast.
Et ce que je trouve chouette dans le format, c'est que, et tout le monde me dit que c'est bien, donc c'est pour ça que j'en parle, parce que ça partait d'une intuition qui était la mienne, mais qui finalement est plutôt validée par tout le monde, en disant, en fait, on se retrouve bien dans les cas. Il y a un ancien confrère qui m'a envoyé un petit message sur LinkedIn en me disant, hey mec, t'as une caméra dans mes bureaux ? Parce que les cas que tu listes dans ton podcast, c'est exactement ce qu'on vit au quotidien. Donc, tu fais de l'espionnage dans mon bureau ou pas ? Du coup, voilà, on a rebondi et c'est rigolo, on va peut-être faire des trucs ensemble. Mais effectivement, voilà, ça répond bien aux, et les managers se retrouvent vraiment bien dans ces cas qui sont bah, finalement, je me trouve sursollicité, mais qu'est-ce que j'ai fait pour générer cette sursollicitation par mes collaborateurs ? Ça peut être de dire, bah, l'avenir de l'entreprise est incertain, comment est-ce que je parle de cette incertitude avec mes équipes, etc. Et on traite le truc en 25 minutes et c'est souvent très opérationnel avec un dirigeant qui vient expliquer, ouais. qui vient expliquer son cas et on l'analyse ensemble.
De toute façon, le mieux pour bien comprendre ce format, c'est d'aller
le voir.
Exactement.
Et de mettre 5 étoiles.
D'abord d'écouter, puis ensuite de mettre 5 étoiles.
Bah, écoutez jusqu'au bout.
On mettra le lien en description. Il me reste deux parties dans cet épisode. L'avant-dernière, c'est sur les rencontres, le mindset et l'entrepreneuriat. Avec quelques petites questions. La première, c'est est-ce que tu veux me parler d'une rencontre qui a marqué ton aventure ?
L'aventure d'N48 à Rennes.
Ouais.
Ok, clairement, le monsieur qui est en couverture derrière toi, qui est Yvan Quenarden, qui est mon expert comptable, l'histoire de la rencontre avec Yvan, elle est assez extraordinaire. Yvan Quenarden, c'est le patron du groupe maintenant, mais qui a lancé son activité à partir de l'expertise comptable et qu'il a développé sur plusieurs autres sujets. Et en fait, un jour, en emmenant mon dernier fils à l'école, je passe devant la vitrine, d'une toute petite vitrine à Rennes et moi j'étais en train de réfléchir à comment est-ce que je vais monter N48 et puis il y avait une petite statue de la reine d'Angleterre qui saluait comme ça de la main et j'ai trouvé la statue hyper jolie et hyper rigolote et du coup je lève le nez, je vois l'optimiste expert comptable et je dis là, ils ont de l'humour, les gars, quand même. Et pour des experts comptables, ça vaut le coup de pousser la porte. Et en fait, donc j'ai discuté avec Yvan, qui est devenu mon expert comptable, mais il est plus que ça, parce qu'il m'a... Il m'a aidé à passer de l'idée, de l'intuition que j'avais que pouvait y avoir, tu vois, que j'avais l'impression que je pouvais apporter quelque chose, mais j'étais pas sûr qu'il y avait un marché en face. Je voyais bien qu'il y avait un besoin, mais c'est pas parce qu'il y a un besoin qu'il y a forcément un marché derrière que ça peut se monétiser. Et il m'a aidé effectivement à passer ce cap-là de dire, mais en fait, ce truc-là a une vraie valeur, ce truc-là a une vraie utilité. Du coup, vas-y, go. Et il m'a fait rencontrer plein de gens. Donc, franchement, ça a été une rencontre. Assez décisif pour moi. Il y en a eu plein d'autres avant,
bien sûr.
Dans la construction de mon parcours, il y a eu plein de belles rencontres. Mais la plus récente, entre guillemets, sur l'aventure d'N48, clairement, c'est Yvan.
Ok, très clair. C'est quoi le plus important, selon toi, dans le fait d'entreprendre ?
Surmonter ses peurs. Parce que c'est flippant, quand même. C'est enthousiasmant, mais c'est quand même flippant. C'est-à-dire qu'à un moment, tu te dis... Je vais vivre de ça. À l'époque où j'étais chez Deloitte, je me souviens d'une conversation autour d'un type qu'on recrutait et un des associés qui dit, il y a des gens qui discutaient un peu parce que c'est quelqu'un qui justement était un ancien entrepreneur, avait monté sa boîte, etc. Et du coup, il y a une partie des gens un peu du sérail qui disaient, oui, je sais pas si on va le prendre, etc. Et puis un des associés qui dit, hey, les gars, ça fait quand même 5 ans que le mec il va chercher sa bouffe tout seul. Hein. C'est pas votre cas, les gars. Vous avez une carte de visite qui est juste gigantesque, donc vous êtes un peu au bout du robinet, quoi. Donc lui, il est allé chercher son business tout seul. Donc vous devez prendre ce truc-là en considération dans votre choix, quoi. Et ça, c'est un truc qui me faisait vraiment flipper. Et d'arriver à faire la différence entre toi et le business. C'est pas facile parce que t'es entrepreneur, c'est ton idée, c'est ton activité. Mais quand les gens te disent non, en fait, c'est juste, ils disent non à un sujet business et ils te disent pas non à toi en tant qu'on veut pas travailler avec toi, tu vois. Donc, faut, voilà, surmonter ses peurs et elles sont nombreuses quand même parce que moi, j'ai des enfants, tu vois, faut les mettre sous un toit, assurer leur avenir.
Le risque est plus grand.
Il y a une espèce de pression peut-être un peu économique de dire quand même, est-ce que c'est vraiment raisonnable? Donc, faut surmonter tes peurs. Il faut faire la distinction vraiment entre toi et l'idée, entre guillemets, le business. Or, pourtant, tout ça est quand même très imbriqué dans la vie d'un entrepreneur. Tu vois, le pro-perso se mélange tout le temps, donc c'est pas facile de faire la distinction entre les deux, surtout quand on te dit non. Ça, c'est des choses qui me paraissent vraiment, vraiment importantes.
Tu viens de parler du pro-perso, ça tombe bien, puisque ma dernière question sur cette partie, c'est comment est-ce que tu relis le pro et le perso ? Est-ce que tu le relis et si oui, comment ? Pour toi, est-ce que c'est un tout ?
C'est impossible à dissocier, tu vois. C'est impossible à dissocier.
Il y en a qui le font, il y en a qui...
Ah ouais ?
Ouais, ouais, exactement.
Il y en a qui arrivent à dissocier pro et perso ?
Exactement. En réponse à cette question, je te jure que, alors, en grande majorité, les entrepreneurs que je reçois m'ont dit, bah, pour moi, c'est un tout et je ne dissocie rien, mais il y en a qui m'ont dit qu'ils arrivaient à dissocier les deux. Donc là, je leur dis chapeau, puisque c'est...
Moi, en fait, j'avoue, je sais pas du tout. D'abord, moi, un des moments que j'ai adoré, cet été, j'étais en vacances, Portugal, bord de la piscine, arrive l'heure de l'apéro et mon téléphone sonne. Et c'était même pas un client, on pourrait dire, c'était à mi-chemin entre, ouais, un prospect, quoi. Quelqu'un avec qui on a coopéré, qui a participé à une formation que j'ai animée, et qui me dit « Je te dérange pas, j'ai un truc que je voudrais traiter avec toi. » C'est son moment à lui, là. Je lui réponds. Et on échange. Alors évidemment, j'ai les yeux noirs autour en disant « Hé, t'es pas en train de nous gruger un peu sur le fait de tu prépares pas l'apéro, tu prépares pas le 1, genre t'es au téléphone pour le boulot et tu nous gruges ?» Voilà, mais j'assume les yeux noirs de tout le monde, ça a été un peu un bon prétexte, mais j'arrive pas à faire la distinction. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'il faut arriver à couper régulièrement et à s'extraire, entre guillemets, de ça, aller se ressourcer. Après, chacun, ça prend sa forme. Moi, j'ai une femme qui est infirmière et qui bosse samedi, dimanche. Moi, ça me gêne pas de traiter des trucs avec des clients. Hier, on est lundi. Ouais, hier, on était dimanche. Du coup, je faisais ma compta le dimanche matin. Tu vois, ça gêne personne. J'ai fait de la facture. Enfin, j'ai fait des trucs presque toute la journée. C'est pas très grave. Il y a aussi des mercredis après-midi ou des jeudis matins où je vais pouvoir aller faire autre chose parce que je suis maître de mon agenda. Donc, tu vois, c'est pas très grave. J'ai besoin de m'accorder du temps en break, qui est pas forcément très long. Et effectivement, la différence pro-perso, tu vois, elle est... Alors, je garde des lieux différents pour mes lieux de vie et mes lieux de travail.
On n'est pas dans ton salon, là.
Non, non, non. Et effectivement, j'y ai pensé à un moment. Et en fait, j'avais un bureau à la maison qui était prêt pour recevoir du monde. Et en fait, je me suis rendu compte avec le temps que c'était pas une bonne idée. Il fallait physiquement, pour moi, scinder les deux. Et c'est pas une règle qui est vraie pour les autres. Hein.
Ok, très clair. On va pouvoir passer à la dernière partie du podcast avec quelques petites questions rapides. À chaque fois, tu as évidemment le temps d'y répondre. La première, c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux ?
J'ai pas l'impression d'aller mal.
T'es toujours au top ?
Non, pas toujours au top, mais... non, je sais pas. J'ai pas. Tu vois, il y a des gens, c'est je vais courir, machin, etc. Je sais pas dire. Ça peut prendre des formes différentes. Je sais pas bien répondre à cette question.
Pas de souci. C'est quoi ton plus grand rêve ?
Que l'aventure continue à grossir. Tu vois, de rêve professionnel. Hein. Ouais, que l'aventure continue, que ça continue à grossir et que du coup on ait un vrai impact et qu'on soit reconnu comme étant une référence, de dire ok, je sais qu'en allant chez eux j'aurai juste ça, juste ce sujet-là, mais j'aurai le bon niveau dont j'ai besoin. Ça serait chouette, tu vois, de devenir un peu une référence pour une partie des gens. Ah, j'ai un problème de management. Oh bah,
c'est très relié avec tes objectifs futurs.
Ouais. Du coup.
À l'inverse, c'est quoi ta plus grande peur ?
Elle n'est pas professionnelle. Quand on est parent, je pense que nos plus grandes peurs, elles sont liées à nos enfants. Et moi, en plus, je suis dans une phase où les enfants sont en train de quitter la maison. Donc, ils commencent à vivre leur vie. Et tu vois, j'ai plus la main, quoi. Tu vois, il y en a un, il est parti en région parisienne. Un autre qui il rentre pas, tu sais pas. Et là, du coup, tu voilà. La peur, c'est la vraie peur, c'est les enfants.
Ouais. Okay.
Après, le reste.
Est-ce que t'as un livre à me conseiller ?
Ah, mais carrément. J'en ai deux. Ça dépend de ton niveau d'énergie. Le premier, c'est François Dupuis. François Dupuis, c'est un sociologue.
Tu peux le montrer là-bas. Cette cam. Voilà. Lost in Management.
Voilà.
On mettra les liens en description.
On a écrit 3. C'est Lost in Management. Et sa série, franchement, c'est une série qui décode le monde de l'organisation, enfin le monde des entreprises et le monde du management. Franchement, c'est vraiment très très intéressant. C'est le premier est difficile à lire. Faut peut-être aller regarder le deuxième qui est le plus simple. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment c'est une bonne référence pour comprendre surtout que c'est quand quelqu'un dysfonctionne, c'est pas juste lui entre guillemets qui dysfonctionne, c'est souvent l'organisation et il y a quelques cas qui sont quand même très intéressants. Le deuxième, c'est ma bible. Pour le coup, il est plus compliqué, il est plus long, tu vois, c'est gros, c'est écrit tout petit. Et tout ça, c'est des bouquins de sociologue. Hein. Et ça, c'est Crozier, l'acteur et le système. Et là, on va comprendre effectivement quelles sont les logiques d'un acteur à l'intérieur d'un système et qu'un dysfonctionnement est lié à la fois au système et effectivement pas seulement à l'acteur. Donc ça, c'est quand vous avez vraiment le temps, voilà, tu plonges là-dedans. Mais ça c'est...
Ok.
C'est gros, ça, c'est bon.
Bah écoute, je note les recos. Est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller?
Alors moi, ouais. Alors j'en ai deux.
T'es le premier invité qui me ramène un DVD quand même.
Ah ouais, attends, moi j'ai été regarder tes épisodes avant. Ouais, j'en ai deux que j'aime beaucoup. Donc on est sur passion politique, à la Maison Blanche.
Ok, je connais pas.
J'ai adoré cette saison. Cette saison, alors les premières datent un peu, hein, mais on est clairement dans l'aile ouest de la Maison Blanche, autour d'un président plutôt démocrate. Et tu vis la vie à la fois des personnages et des problématiques diplomatiques du monde, etc. Donc c'est quand même vraiment intéressant. Et la deuxième que j'ai adorée, qui est avec Kadmerad, dont on le voit souvent dans des films très drôles, où là effectivement on est dans le monde politique franco-français, dans le monde des affaires. Notamment du monde des socialistes, qui est assez, assez incroyable. Il est dans un rôle complètement à contre-emploi d'un maire de Dunkerque qui, à la fois, est porté par une ambition qui lui fait faire des trucs pas toujours très raccord. Une très, très belle série française. Trois saisons.
Ouais.
Et notamment la troisième saison où tu vois l'émergence d'une espèce de nouveau centre, alors que ça a été tourné bien avant l'arrivée de Macron en France, en tout cas son avènement, avec cette fragmentation du paysage politique qu'ils avaient déjà décrit en avance de phase. Franchement, vraiment, vraiment passionnante.
Ok, bah hyper intéressant. De toute façon, on listera les recos en description. Et puis, je pense que je vais aller jeter un œil. Baron Noir, je connaissais de nom. À la Maison Blanche, je connaissais pas du tout. J'ai rajouté une question cet été qui s'appelle la question reverse, où là, tu vas pouvoir t'amuser. Puisque, y a-t-il une question que tu souhaiterais me poser?
Ouais, carrément.
Vas-y.
Carrément. Où est-ce que tu te vois? Et tu peux répondre des deux faces. Perso et pour Tête de Tigre et Serial, ouais. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans?
Wow.
Peut-être tu peux te dire dans 5 si tu veux, mais en gros, voilà, c'est quoi la carte de ton futur?
C'est une question que j'ai souvent très, très souvent dans cette question. C'est peut-être la question que j'ai le plus dans cette question.
Ah bah faut que j'en trouve une autre alors.
Non, je peux y répondre. À chaque fois, je galère à y répondre, donc ça veut dire que je travaille pas cette question. J'ai beaucoup de mal à me projeter, mais après, tu vois, si tu me dis horizon 10 ans, je me vois bien vivre à Lisbonne avec potentiellement un peu de business en ligne, un peu de podcast, un peu de business physique, beaucoup de liberté dans ce que je fais. À ce moment-là, je suis mon propre média, donc j'ai suffisamment d'audience pour, tu vois, développer ce que j'ai envie de développer. Tu vois, je pense que c'est une belle trajectoire sur les 10 prochaines années. Donc, je dirais ça. Et si ça peut arriver dans 5 ans, ce sera très
bien. Ça marche, ok.
Tu vois, c'est une bonne réponse.
Super, merci beaucoup.
Après, aussi bien, ce sera complètement autre chose. Hein.
Ah, c'est le propre de l'entrepreneuriat.
Exactement.
C'est que tu fais un plan et ça se passe jamais comme t'avais prévu.
C'est ça. Et puis moi, j'aime beaucoup aussi dans l'entrepreneuriat tout ce qui est inattendu. Et pour moi, l'improbable, c'est ce qui a la meilleure saveur dans le fait d'entreprendre. C'est tout ce qui n'est pas prévu. Typiquement, s'il y a 10 ans, tu m'avais dit qu'il y a 10 ans, j'avais 26 ans. N'importe quoi. Qu'est-ce que je raconte? Je suis fatigué. Il y a 10 ans, j'avais 16 ans. Si tu m'avais dit dans 10 ans, tu te verrais où? Je t'aurais dit bosser dans la com, dans un grand groupe, tu vois. Donc, strictement rien à voir. Donc ça se trouve dans 10 ans, je sais pas, je vais gérer une paillote sur la plage à faire des cocktails, tu vois, on sait pas.
Ouais. C'est marrant, ok.
Tu vois?
Ok.
C'est quoi pour toi une ou un entrepreneur?
C'est quelqu'un qui suit sa voix et ses intuitions, clairement. Il y a un truc chez tous les entrepreneurs autour de l'intuition, tu vois, un truc de... Je sens un truc et voilà. Et quelqu'un qui passe à l'action plus vite que les autres. Clairement, il y a ça qui est différent, c'est le... Moi qui ai connu le monde du salariat et qui ai connu le monde de l'entrepreneuriat, tu vois, et des patrons de PME, c'est effectivement quelqu'un qui passe clairement à l'action beaucoup plus vite que les autres. Et puis pour boucler avec ce que je disais au début, moi je viens quand même d'un monde très très loin de l'entrepreneuriat. Moi, j'ai vécu avec des grands-pères qui avaient une représentation des patrons qui était mal, tu vois. C'était mal, le patron, c'était quelqu'un de mauvais, qui cherchait à exploiter les autres. Moi, je n'ai pas rencontré, pas rencontré un entrepreneur, un dirigeant de PME qui soit pas bienveillant, qui soit pas tout le temps centré sur est-ce que mes équipes vont bien, est-ce que ce que je fais c'est bien, est-ce que je sécurise bien leur avenir. C'est un sujet de préoccupation pour eux tout le temps. Et ça c'est un des trucs que mon parcours m'a apporté. Et si je revenais en arrière, je pourrais dire à mes grands-pères, va regarder, je crois que soit on n'a pas croisé les mêmes, alors c'est vrai que c'est pas la même époque, hein, mais je crois que tu t'es trompé. C'est bourré de gens ultra bienveillants qui sont plutôt là pour aider les gens à grandir et pas du tout pour les exploiter. Donc du coup, il y a un vrai retournement, un vrai retournement de vision. Et ça, je suis content d'avoir découvert ça.
Ce sera la conclusion de notre échange. Merci beaucoup Yannick pour cette discussion. J'espère que ça t'a plu.
J'ai adoré, j'ai trouvé ça trop court. On peut continuer encore un peu.
On pourra faire un épisode 2, un épisode 3.
Ça pourrait ne pas intéresser les gens.
Oh, tu sais,
mais tu peux rester discuter si tu veux.
Merci. Merci beaucoup à toi qui nous a regardé et écouté. J'espère que ça t'a plu aussi. Tous les liens, toutes les recos, comme chaque épisode, sont à retrouver en description. N'hésite pas à t'abonner, à nous laisser un petit message si cet épisode t'a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.